Les campagnes électorales sont bien souvent des moments particuliers et privilégiés pour donner à l'occasion à certaines personnes de faire leur crise d'humilité. Votez pour moi, puisque je suis le meilleur, votez pour moi. Je veux être le chef, je veux être le premier, et comme il n'y en a qu'un qui peut être aussi bon que moi, votez pour moi. Vous avez entendu cela. Et le monde dans lequel nous vivons, hélas, fonctionne de cette manière-là. Si l'on veut réussir dans le monde où nous vivons, la plupart du temps, il faut se croire meilleur que les autres et arriver à convaincre les autres que c'est ainsi, même si c'est faux. C'est ainsi que notre monde fonctionne. Où l'on cherche à savoir qui est le meilleur, qui est le plus grand, qui est le plus beau, qui est le plus fort. On avait d'ailleurs posé cette question à Jésus. Ça nous est rapporté dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18. Dès le premier verset de ce chapitre, on nous présente les disciples qui sont animés justement de cette préoccupation-là. Les disciples, à ce moment, s'approchèrent de Jésus, nous est-il dit, et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Mon attention est attirée par ce passage parce que Jésus introduit cette parole par une formule qui veut dire « Les amis, écoutez bien, c'est très important ce que je vais vous dire. » C'est cette parole « Je vous le dis en vérité » qui est le mot « Amen » dans le texte. « Je vous le dis en vérité. » Ouvrez bien vos oreilles, ce que je vais vous dire est important. Si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus ne dit pas « Vous aurez du mal à entrer dans le royaume des cieux ». Jésus ne dit pas « Je doute que vous y arriviez ». Jésus ne dit pas « Vous aurez vraiment de la peine à y entrer ». Dans le texte, Jésus utilise une double négation qui n'apparaît pas dans notre français. Et si nous voulions traduire le texte vraiment comme Jésus l'a présenté, nous devrions dire « Si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. » Ou bien, si vous le préférez en français courant, à moins que vous vous le convertissiez, et à moins que vous ne deveniez comme des petits-enfants, il n'est pas question que vous rentriez dans le royaume des cieux. C'est l'intention de Jésus dans ce texte où il insiste sur ce fait. C'est presque une condition sine qua non de notre salut. C'est dire à quel point Jésus regarde cette vertu des enfants comme une nécessité pour ceux qui veulent entrer dans le royaume des cieux. Le verset suivant, d'ailleurs, nous dit exactement ce à quoi Jésus fait allusion lorsqu'il parle des enfants. Et c'est au verset 4, Évangile selon Matthieu, chapitre 18, verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus parle ici du royaume des cieux, il parle à ses disciples. Et il est bien évident que Jésus a en tête les disciples et l'Église et ceux qui se disent disciples de Jésus. Il y a bien des paroles de Jésus que nous prenons au sérieux. Mais je dois admettre que nous ne sommes pas nécessairement tentés de prendre cette parole de Jésus aussi sérieusement que d'autres. Je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits-enfants, aussi humbles qu'eux, pas question que vous rentriez dans le royaume des cieux. La parole de Dieu définit d'ailleurs clairement l'attitude de Dieu vis-à-vis des orgueilleux. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, il est dit, c'est une citation d'ailleurs de l'Ancien Testament, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. » En réalité, tout le problème a commencé comme ça, avec l'ennemi numéro un, avec le diable. C'est lui qui disait « Je m'assiérai sur la montagne du Très-Haut ». C'est lui qui voulait prendre la place du Très-Haut. Et c'est lui aussi qui a invité Adam et Ève à participer à cet esprit-là. Lorsque Jésus était au désert, il s'est approché de lui pour l'inviter aussi à participer à ce même état d'esprit. Et vous vous souvenez, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, sont rapportées les trois tentations de Jésus au désert. Elles manifestent très clairement cet esprit que l'on retrouve dans le monde aujourd'hui, dont le diable est le prince. Dans la troisième tentation, par exemple, au verset 9, le diable lui dit « Si tu te prosternes et m'adores. » C'est une manière de dire « Je veux être le premier, mets-toi à mes genoux là. » Et il se serait tellement senti bien d'avoir Jésus qui se soumet à lui. Et nous nous sentirions bien aussi d'avoir Dieu qui se soumet à nous, à nos plans, à nos projets, à nos envies, à tous nos fantasmes. Ça nous ferait plaisir, non, parfois. Satan recherchait la puissance de Dieu pour lui-même, mais il ne voulait pas de son caractère. On s'est approché de Jésus de façon subtile pour l'inviter tout au long de son ministère à exprimer ce même état d'esprit. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, au premier verset, il y a là une nouvelle demande qui est présentée à Jésus. Il est dit, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe dans le ciel. Fais-nous voir un miracle dans le ciel. En fait, ces gens étaient en train de dire à Jésus, « Fais donc comme nous pour changer. Montre-toi, montre ce que tu es capable de faire. Montre-toi un petit peu, montre ta puissance. Allez, mets-toi un peu en évidence, fais voir ce que tu es capable d'accomplir. » Mais curieusement, quand vous lisez les versets précédents, à la fin du chapitre 15, vous réalisez que Jésus vient juste d'accomplir une série incroyable de miracles dans lesquels il a guéri des malades, guéri des boiteux, rendu la vue aux aveugles, l'ouïe à ceux qui étaient sourds, la parole aux muets. Jésus a guéri des maladies incroyables au point que les gens se disaient « Mais enfin, qui est-il pour accomplir des choses ainsi ?» Et voici les chefs qui viennent et disent, mais si tu nous faisais un miracle un petit peu là, des miracles disant qui il est et d'où il vient, ils en ont eu largement leur compte. Depuis sa naissance jusqu'à ce jour-là, à sa naissance, les miracles n'ont pas manqué. À son baptême non plus, Dieu lui-même a parlé du haut du ciel pour dire qu'il accréditait entièrement le ministère de Jésus. Est-ce qu'il leur fallait encore autre chose venue du ciel pour les convaincre? Les signes étaient nombreux et n'en ont pas voulu. D'ailleurs, un peu plus tard dans son ministère, à la faveur d'une parabole qu'il racontait, Jésus a parlé de ces gens. Et il disait, c'est dans Luc chapitre 16, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » C'était là le même esprit, l'esprit qui consiste à se mettre en avant, à montrer ce qu'on est capable de faire, à impressionner la foule pour être considéré, pour être regardé comme quelqu'un digne de l'honneur des uns et des autres. C'est à cela qu'ont poussé Jésus. Et Jésus leur a répondu. Une génération adultère demande des miracles. Une génération infidèle demande des miracles. On ne leur donnera pas d'autre miracle que le miracle de Jonas. Le plus grand des miracles, celui par lequel Jésus, donnant sa vie un jour, 3 jours plus tard, la reçoit à nouveau, parce que la tombe ne pouvait pas le contenir. Cet état d'esprit, nous le retrouvons, je crois, aujourd'hui, nous le retrouvons dans le monde où nous sommes, dans le monde dans lequel nous vivons 6 jours par semaine. Et peut-être, hélas, nous le retrouvons chez nous, nous le retrouvons dans l'Église. Lorsqu'on parle de l'humilité, personne ne peut dire « j'y suis arrivé ». Rien que cela serait un indice clair et public, qui n'y est pas encore. Ainsi, dans le livre Jésus-Christ, je trouve ce paragraphe et je ne résiste pas à la tentation de vous le lire, tant je le trouve actuel. Ceux qui se considèrent comme amis de Jésus, mais qui n'ont pas tout abandonné pour devenir ses vrais disciples, sont influencés dans une large mesure par l'esprit des pharisiens. Même les disciples qui semblaient extérieurement avoir tout abandonné pour Jésus n'avaient en fait pas cessé dans leur cœur de soupirer après de grandes choses pour eux-mêmes. C'est cet esprit-là qui provoquait des disputes et qui demandait « qui est le plus grand ?» Aujourd'hui, comme autrefois, parmi les disciples de Jésus, ce péché subtil est très répandu. Combien souvent notre service pour Dieu et notre communion avec les autres est entaché du désir secret de nous élever. C'est l'amour de soi, l'attente de l'approbation humaine et le désir de suivre un chemin plus facile que celui que Dieu a choisi qui nous conduit à remplacer les préceptes divins par les théories et les traditions humaines. Ce même esprit court depuis le début, il court encore aujourd'hui, et c'est vrai que je le retrouve chez moi, c'est vrai que je le retrouve dans nos cœurs. Cependant, nous devons reconnaître que cet orgueil qui s'exprime de mille et une manières est un virus mortel. Un virus mortel. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup des virus. Les machines en attrapent, les humains en attrapent. Voilà un virus de plus que l'on pourrait ajouter à la longue liste de ces malfaiteurs de l'humanité, celui de l'orgueil et du désir d'être élevé. Et pourtant, il y a là un grand piège, parce que celui qui est le plus pris par ce virus ne va pas être nécessairement enclin à le reconnaître. Moi, orgueilleux, mais voyons, jamais de la vie. Voyez comme je suis un... Vous ne voyez donc pas. C'est une espèce de cercle vicieux qui nous empêche précisément de reconnaître la véritable situation dans laquelle nous sommes. Et parfois, parfois, les autres le voient bien longtemps avant nous. Le problème, c'est que nous ne sommes pas les seuls à être victimes de ce virus pour nous-mêmes. Les conséquences de cet orgueil, les conséquences de notre amour de soi se retrouve largement chez les autres. Dans un texte écrit en 1905, il y a plus d'un siècle, Ellen White écrivait ceci. Si seulement nous nous humilions devant Dieu et si nous développions la courtoisie, la douceur et la piété, il y aurait 100 conversions à la vérité, là où il n'y en a qu'une. Aujourd'hui. C'est une de ces paroles où Ellen White mentionne différentes choses qui, si elles étaient changées dans notre vie et dans l'Église, permettraient à la propagation de l'Évangile d'avancer beaucoup plus vite. Mais quand j'y pense, c'est sérieux. Le fait de me prendre pour quelqu'un, le fait de croire que je suis un grand personnage et que je suis le meilleur, je découvre tout d'un coup que ce n'est pas innocent, mais que c'est quelque chose qui va empêcher les autres de découvrir qui est leur sauveur. En fait, c'est grave. C'est la raison pour laquelle, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6 et au verset 3, l'apôtre Paul met en garde les membres de cette Église. Cette tentation, ce virus, n'est pas nouveau. Il est tellement ancien que nous avons largement le temps dans les Écritures d'apprendre à le connaître pour le discerner dans notre propre cœur. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6 et au verset 3, l'apôtre Paul écrit ceci. « Si quelqu'un pense être quelque chose, qu'il ne soit rien, car il s'abuse lui-même. Il se trompe lui-même. Et s'il pense être quelqu'un, eh bien qu'il ne soit rien. C'est en fait ce qu'il est. Qu'il ne soit rien. » Malheureusement, nous sommes les uns et les autres souvent pris par surprise par ce virus. Parce qu'en réalité, dans le monde où nous vivons, ce n'est pas considéré comme un mal de se considérer comme le meilleur, comme le plus beau, comme le plus grand, comme le plus fort, comme le plus intelligent. C'est au contraire, dans l'esprit de certains, une vertu. Et ainsi, nous pouvons être contaminés par cet esprit du monde ambiant. Et peut-être que certains d'entre nous qui ne sont rien dans la vie s'imaginent qu'ils pourront peut-être, au bénéfice de l'Église, devenir quelqu'un finalement. Frustrés de n'être rien en dehors, ils se disent peut-être que finalement, dans l'Église, ils pourraient devenir quelqu'un, avoir une place, devenir ce qu'ils ne sont pas ailleurs. Et là, le Seigneur Jésus nous remet tout de suite à notre place. Il nous remet tout de suite à notre place dans une parabole qui est racontée par Luc dans son évangile au chapitre 17. J'aimerais lire avec vous dans ce chapitre un verset où Jésus nous redonne notre vraie dimension. Évangile selon Luc, chapitre 17. Comme conclusion de cette parabole, il dit au verset 10: Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Des serviteurs inutiles. Ne pensons pas un instant que le Seigneur ait besoin de nous. Il a choisi d'avoir besoin de nous. Et cela fait une grande différence. Il n'a pas besoin de nous. Il nous aime. Si bien que, même s'il nous appelle à être des serviteurs, souvenons-nous que nous sommes des serviteurs inutiles. Il y a de nombreuses années en arrière, à la fin d'un service de culte, où j'avais mentionné cette parabole et cette parole de Jésus, un homme s'est approché de moi et il m'a dit « Je n'aime pas beaucoup cette idée que nous sommes des serviteurs inutiles, parce que ce n'est pas vrai. » Je l'ai laissé parler parce que il n'avait pas besoin d'une réponse. Nous n'aimons peut-être pas nous entendre dire que nous sommes des serviteurs inutiles. Et pourtant, Dieu, dans sa bonté, n'est pas gêné par ce paradoxe de nous dire « Tu es un serviteur et je voudrais t'employer à mon service. » Bien que tu ne me serves à rien, et que 9 fois sur 10, le travail est plus compliqué avec toi que si tu n'étais pas là. Et les parents peuvent comprendre cela. Vous, parents, est-ce qu'il ne vous est pas arrivé d'avoir votre enfant, votre petit enfant, qui dit « Papa, je veux aider, maman, je veux aider. » Et ils viennent toujours au moment où on est pressé. Et ils vont prendre le marteau. Et ils vont prendre le fouet, et ils vont prendre les outils de la cuisine pour aider. Mais ils veulent aider. Mais misère. C'est le moment où on aimerait qu'ils aillent jouer dans leur chambre, n'est-ce pas? Parce qu'on sait tous les dégâts qui peuvent arriver à ce moment-là. Papa, je vais planter les clous. Voilà, sortez le mercurochrome et les bandes pour les doigts. Et ça va prendre plus de temps. Imaginez donc le Seigneur, qui veut nous employer comme ses serviteurs, mais qui sait que nous allons gâter la sauce et qui vient quand même nous employer à son service, parce qu'il a choisi de nous aimer quand même jusque-là. Serviteur inutile, mais serviteur quand même. C'est alors que, si notre service devient le service de nous-mêmes, au lieu de devenir le service de Dieu, le service lui-même devient une malédiction. L'orgueil, c'est l'antigrâce. Le service pour soi, c'est le salut par les œuvres. L'orgueil, c'est de croire que nous sommes quelqu'un lorsque nous sommes personne. C'est de penser que nous sommes capables lorsque nous ne nous sommes pas. C'est de penser que nous valons quelque chose lorsque c'est Dieu qui vaut et qui nous donne sa valeur. L'orgueil, c'est l'antigrâce. Et c'est en fait la source de tellement de difficultés. Dans un article qu'il écrivait en janvier 2000, Roy Adams écrivait dans l'Adventist Review cette phrase que je trouve tellement vraie. Il disait « J'ai l'impression que la plupart des conflits, des polarisations, des mauvais comportements que l'on voit dans l'Église aujourd'hui ont leur source dans l'esprit de gens bien intentionnés, mais qui aspirent à avoir des positions et du pouvoir et qu'ils n'ont jamais eu. » Je crains que ce soit juste. Je crains que ça soit juste. Jean de La Fontaine, il y a longtemps, dans ses fables, avait composé une fable dont j'ai lu aujourd'hui, récemment, une version moderne et une version américaine de la fable de La Fontaine qui à l'origine s'appelait « La tortue et les deux canards ». Peut-être que vous la connaissez. Maintenant, la version américaine, celle que je vais vous rapporter, c'est l'histoire d'une grenouille du Michigan qui en a assez des hivers interminables. Alors, si vous voulez changer l'histoire et la rendre plus locale, vous pourriez, si vous voulez, prendre l'histoire d'une moufette du Québec et qui en a assez de ces hivers qui durent 6 mois de l'année. Voulant se déplacer, donc, notre fameuse grenouille, jusque vers les pays chauds, elle envisage d'aller jusqu'en Floride. Et elle calcule le nombre de sauts qu'elle va devoir faire. C'est un nombre incalculable, elle abandonne le projet et pense qu'il faut avoir recours à de l'aide pour y arriver. Alors, elle va contacter 2 oies du Canada et lui proposer de l'aider à se rendre en Floride. Avec une corde, une oie va prendre la corde d'un côté, l'autre oie va prendre la corde de l'autre, et notre grenouille du Michigan, où notre moufette du Québec va mordre la corde à son milieu. Nos 2 oies vont prendre leur vol et conduire notre batracien à son lieu de villégiature. Bon, tout va bien, les oies sont d'accord, une à chaque bout. Mais l'entreprise est périlleuse, et cette drôle d'embarcation, si elle veut arriver à bon port, dépend de la capacité des 3 intervenants de garder leur bouche fermée. N'est-ce pas? Le départ est fixé et notre grenouille s'envole. Tout va bien. De là-haut, le paysage est fantastique, elle ne l'avait jamais vu si beau. Mais voilà qu'arrivée au-dessus du Tennessee, dit la fable actuelle, arrivée au-dessus du Tennessee, on survole un étang où se trouvent d'autres grenouilles. Et là, les grenouilles lèvent les yeux. Eh, fantastique, merveilleux, extraordinaire! Et s'adresse à la grenouille qui vole. Il dit, mais voyons, mais c'est une idée extraordinaire et fantastique. C'est génial! Et lui disent, mais qui donc de vous trois a eu cette idée extraordinaire? C'est une idée fabuleuse! C'est génial! Laquelle de trois a eu cette idée? Et notre grenouille n'en tenant plus crie, c'est moi! et ce fut son dernier mot. C'est moi, c'est moi, c'est moi. En réalité, à qui va l'honneur? À qui va l'honneur? Dans ce même article que je mentionnais tout à l'heure, Roy Adams écrivait une petite phrase qui est extrêmement vraie dans l'Église. Il disait « Nous serions vraiment surpris de voir combien de bien pourrait être fait dans l'Église si ça n'avait pas d'importance à qui revient l'honneur de l'avoir fait. » Nous serions vraiment surpris de voir combien de bien pourrait être fait dans l'Église si ça n'avait pas d'importance de savoir à qui revient l'honneur de l'avoir fait. Ainsi, je crois cette parole qui nous a été donnée il y a déjà longtemps par laquelle, pour résoudre les difficultés, il y a un remède fort simple. Si l'orgueil et l'égoïsme étaient mis de côté, 5 minutes suffiraient à résoudre la plupart des difficultés. Pourquoi donc est-ce que nous nous priverions d'un outil si efficace pour résoudre les problèmes? Mettre de côté l'orgueil et l'égoïsme. Alors, si nous regardons aux motivations qui nous poussent au service, qui nous poussent à faire ce que nous faisons, et même les actions peut-être les plus désintéressées aux yeux des autres, que trouvons-nous dans nos cœurs? Quelle motivation finalement se trouve au fond de nous-mêmes pour faire ce que nous faisons, pour dire ce que nous disons, ou pour même parfois nous taire? Quelle motivation au service? Le Seigneur a donné l'exemple du service même, lui qui a quitté les cieux pour venir comme le dernier des derniers et mourir sur une croix. Il a donné l'exemple de celui qui accepte de n'être rien bien qu'il soit tout. Et de cette manière, dans notre service, le Seigneur voudrait trouver uniquement cette reconnaissance d'avoir été sauvé par Jésus-Christ, notre Sauveur. Uniquement ce désir de lui dire merci, parce que jamais nous n'arriverons à comprendre l'amour immense de celui qui nous a sauvés par ce sacrifice. Dans sa prière que Jésus adressait à son Père, qui se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, Jésus donnait ce qui a été la clé même, le mot d'ordre de tout son ministère. Dans Jean, chapitre 17, au verset 4, Jésus disait « Je t'ai glorifié sur la terre ». C'était là son mot d'ordre. C'était là la clé même de tout ce qu'il accomplissait. Je t'ai glorifié sur la terre. Et si nous voulons être ses disciples, eh bien ce mot d'ordre sera aussi celui de chacune de nos vies. Amen.